Vous m'en direz des nouvelles.
Jean-François Cadet,
Baptiste Antoine,
Pierre Plantier.
Bonjour, bonsoir. C'est une grande figure des mythologies africaines. On la retrouve aussi bien en Afrique de l'Ouest qu'en Afrique centrale, chez les Ewé du Bénin, les Igbo du Nigeria ou les Bamileke du Cameroun, mais aussi, parfois sous d'autres noms, en Haïti, dans les Caraïbes, au Suriname ou en Guyane. Esprit de l'eau, mi-femme, mi-poisson, sirène ou belle femme tenant un serpent, les avatars de Mami Wata sont multiples, comme autant de masques, tour à tour ou en même temps, séduisants et hideux, charmeurs et repoussants, bienveillants et inquiétants. C'est cette ambivalence que la chorégraphe et danseuse Betty Chomanga nous fait appréhender le temps d'un solo qui bouscule et envoûte en même temps. Elle marche, elle ondule, elle tressaute, elle saute, elle sursaute, elle soubresaute, elle chante, elle parle, elle crie, elle éructe, du ventre au visage, des pieds jusqu'aux cheveux, tout son corps bat d'une pulsation irrépressible qui entraîne les spectateurs dans un tourbillon d'expressivité, d'énergie et de sueur. Mascarade est à découvrir jusqu'au 26 mars à Paris, au Théâtre de la Bastille, et vous m'en direz des nouvelles. Bonjour Betty Chomanga.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Comment avez-vous rencontré le personnage de Mami Wata ?
Alors, la première fois que j'ai entendu parler de Mami Wata, c'était lors d'un voyage au Cameroun dans ma famille paternelle. Et c'était au moment des fêtes de fin d'année, de Noël. Et un de mes oncles me disait il faut faire attention à la mer à cette période-là de l'année parce que donc il y a Mami Wata qui peut prendre les enfants ou les hommes, etc. Et donc. Et on me disait c'est une sirène à laquelle il faut faire attention. Et puis ça m'a un peu intriguée, et puis j'ai commencé à poser des questions. Et puis je comprenais qu'elle était à la fois attirante parce qu'elle était associée à la beauté, à l'argent, au pouvoir. Et en même temps, il y avait une forme de peur très claire et une forme de monstruosité aussi associée à cette figure. Et puis ensuite, quand je suis rentrée en France, j'ai eu envie d'aller chercher un petit peu plus loin et de comprendre un peu mieux qui était cette figure.
Pour vous, c'est un personnage ancestral ou au fond, c'est un personnage très moderne, voire contemporain ?
Je pense que c'est un petit peu des deux. C'est vrai que suivant de quel point de vue on se place, on peut parler de Mami Wata comme d'un mythe. Donc certains chercheurs, chercheuses occidentaux vont dire que c'est un mythe postcolonial, donc qui serait... issu d'une rencontre et d'un mélange entre des croyances ancestrales qui existaient sur le continent africain en des esprits des eaux, avec des représentations de sirènes qui étaient sur les proues de bateaux des colons, mais aussi avec d'autres images qui viendraient d'Inde, notamment celle d'une charmeuse de serpents. Et ensuite, quand j'ai eu l'occasion d'aller au Bénin plus tard, et pour le coup, le terme de mythe n'a pas de sens là-bas. Pour des personnes qui sont adeptes de Mami Wata, c'est une divinité.
Donc, avec un culte qui, là aussi, est très moderne. Parce que j'ai lu là, dans la presse que parmi les offrandes, il y avait des canettes de soda, par exemple. Donc on a là aussi une rencontre entre justement la tradition et même le capitalisme, la société de consommation aussi. Et puis il y a aussi évidemment les sirènes de l'Antiquité grecque. On pense au mythe d'Ulysse. Évidemment, on pense aussi au personnage de Méduse. D'ailleurs, je trouve qu'il y a un petit tableau dans le spectacle. On a vraiment l'impression que vous êtes inspiré du tableau du Caravage.
Tout à fait. Ça fait partie des... En effet, pour construire ce spectacle, il y avait à la fois cette référence très importante pour moi liée à Mami Wata, mais j'ai travaillé justement à mélanger des images et des imaginaires qui sont issus à la fois de la culture occidentale, mais aussi... de cultures africaines.
Et donc, de tous ces éléments, vous avez fait un spectacle, un solo de danse. Alors, ça commence très timidement, avec une voix très discrète. On entend d'ailleurs votre voix avant de voir votre corps sortir de la pénombre. C'est la voix de la sirène, celle qui a attiré et piégé tant de marins. C'est en tout cas ce que l'on peut penser. Pour vous, la voix était un outil indispensable et un outil chorégraphique dans ce spectacle ?
Oui, alors la voix, c'est un élément qui est apparu dans mon travail progressivement. J'ai aussi eu pas mal d'expériences en tant qu'interprète avec d'autres chorégraphes. Et petit à petit, la voix a pris de plus en plus de place dans ma pratique de danseuse, mais toujours associée au corps. Et là, pour cette pièce, j'étais partie avec l'idée de construire une danse à partir d'un mouvement qui serait un saut, mais plus particulièrement qui viendrait d'une pulsation qui se situe dans le centre du corps, une pulsation ventrale et qui s'agrandissant, créerait une forme d'oscillation verticale qui emmène mon corps dans un saut. Mais en même temps, cet endroit de la pulsation du centre du corps, elle est aussi reliée au souffle. Et je dirais qu'il y a ces deux lignes directrices qui se tissent au fur et à mesure de la pièce. Et donc, c'est à partir du souffle, de cette pulsation, que la voix elle-même est aussi...
Donc, votre voix, elle vient du ventre, pour le coup, comme diraient les coachs vocaux.
Oui, c'est ça.
Voilà. Et peu à peu, cette voix monte en puissance. Alors, je ne sais pas vous, Betty Chomanga, mais pour moi, la voix, c'est très aérien. D'ailleurs, on parle toujours de l'air d'une chanson. La musique que l'on entend actuellement, c'est très tellurique. Les sauts que vous êtes, d'ailleurs, sont à l'avenant. Et la sirène, c'est plutôt un personnage aquatique. Donc, si je vous suis bien, Mami Wata serait donc à la fois aquatique, terrestre et aérienne.
Peut-être, oui. En tout cas, c'est une lecture possible qui me fait penser... donc, Mami Wata, elle appartient au panthéon vaudou. Et une des définitions du vaudou, encore une fois, quand je suis partie au Bénin, j'ai compris que c'était vraiment lié aux quatre éléments. Et donc, à l'air, la terre, l'eau et le feu. Donc, d'une certaine manière, oui, je pense que c'est présent dans cette pièce-là.
Alors, ce qu'on sent d'un bout à l'autre du spectacle, et vous le disiez vous-même il y a un instant, Betty Chomanga, c'est que pour cette danse, eh bien, le cri vient de l'intérieur, hein, pour paraphraser Bernard Lavilliers. Tout vient donc du ventre. Est-ce qu'on peut dire que tout vient des tripes?
Alors, en tout cas, quand j'ai créé cette pièce, une de mes intentions, je me disais, tiens, comment j'ai envie de m'adresser au public, aux personnes qui viendraient voir ce spectacle. Et je m'étais dit que j'avais envie de m'adresser aux viscères des spectateurs. Et qu'avant de m'adresser peut-être à un endroit plus mental ou intellectuel, il y avait une adresse qui était plus physique, plus littérale. Donc oui, il y a quelque chose de cette zone-là aussi qui est là dans l'adresse aussi pour le public.
Oui, donc une pulsion organique, pulsion répétitive aussi à de multiples moments, pulsion de vie ou pulsion de mort?
Ah, ça.
vous ne voulez pas choisir.
Non, ça c'est.
Et vous n'avez peut-être pas choisi d'ailleurs, ce qui montre encore une fois le côté très ambivalent de Mami Wata. Oui. Mais donc, pulsion, en tout cas, il y a. Et le corollaire de la pulsion, c'est le saut.
Ouais, plus que pulsion, ouais, j'emploie plus le terme de pulsation, parce que c'est vraiment un ancrage dans le rythme. Et donc, cette musique d'un DJ sud-africain qui s'appelle DJ Lag, qui a été aussi un vrai support pour moi pour construire cette danse, et dont on a extrait quelques samples. Il y a un morceau entier qui existe dans la pièce. Et qui est un support pour que des choses jaillissent, surgissent, comme si le corps était comme un espèce de canal ou comme un oracle aussi.
Mais ça peut étonner parce que quand on voit l'image de base de la sirène, on pense plus à un personnage couché, un personnage horizontal. Et vous en avez fait un personnage au contraire vertical, un personnage jaillissant, un personnage qui saute,
oui,
qui va vers le haut.
Tout à fait. Je pense que c'était pour moi important de ne pas rester seulement dans seulement l'image de la sirène, mais aussi de travailler autour de qu'est-ce qui m'évoquait, qu'est-ce qui était le plus fort pour moi dans cette évocation du personnage de Mami Wata et dans cette évocation de cette figure-là, de cette divinité-là, au-delà de la dimension... de la sirène. Il y a vraiment la question de la transformation.
La métamorphose.
De la métamorphose, exactement. Et de cette tension entre une forme d'attraction-répulsion. Et qui, d'une certaine manière, et je pense que c'est aussi ça qui m'a beaucoup touchée quand j'ai entendu parler pour la première fois et découvert Mami Wata, c'est que cette tension, elle s'incarne, et vous l'avez dit un petit peu au début, aussi dans une tension qui existe entre l'Occident et l'Afrique. Et dans ce rapport-là, c'était comme s'il y avait une incarnation aussi de rapport d'ambivalence, d'attraction-répulsion aussi liés à l'histoire, au capitalisme.
Oui, avec une expressivité extrêmement, extrêmement forte et à chaque instant, tout en fait est expressivité chez vous dans ce spectacle, Betty Chomanga. Le regard, par exemple, est extrêmement mobile, extrêmement expressif. Vous dansez avec vos jambes et vos pieds, évidemment, mais aussi avec vos mains. On danse aussi avec les yeux.
Oui.
Alors comment on fait? Comment on apprend à danser avec les yeux? Il y a des échauffements et vous faites des petits exercices avec vos yeux avant d'entrer sur le plateau?
Il se trouve que j'en fais pas spécialement, mais il existe, oui, des exercices, notamment dans le yoga, qui font travailler beaucoup la mobilité des yeux. Il se trouve que pour moi, oui, toute cette danse, elle est construite presque dans une dissociation du corps. Donc, c'est comme si le bas du corps est presque comme un moteur fonctionnel qui va juste s'appuyer justement sur cette pulsation et la faire grandir ou rapetissir. Et puis, tout le haut du corps, c'est par là que les images se modèlent ou se sculptent, mais dans quelque chose qui ne s'arrête jamais ou qui... J'ai beaucoup travaillé aussi à partir d'images existantes que je me suis amusée à traduire dans mon corps. Et à travailler au passage qui existe entre deux images. Et comment, dans ce passage, il y a toute une démultiplication, mais qui se travaille aussi à travers le regard des spectateurs et spectatrices.
Voilà, il y a aussi les cheveux. Il y a les yeux, il y a les cheveux aussi. Alors, vous avez des cheveux coupés afro, hein, pour ceux qui ne connaîtraient pas votre visage. Il y a des extensions aussi. Alors, on sait à quel point le cheveu est important pour les femmes, et en particulier pour les femmes africaines. On pensait à la Gorgone, à Méduse tout à l'heure, où on peut aussi penser, alors là c'est une figure complètement différente, mais pour le coup très masculine, c'est Samson dans la Bible, qui tirait sa force justement de ses cheveux. Est-ce que vous, votre énergie, vous la puisez aussi dans vos cheveux,
Betty Chomanga? Là, je ne sais pas si je puise l'énergie dans les cheveux. En tout cas, le travail avec les cheveux, il était vraiment aussi dans comment, petit à petit, il y a toute une... presque une extension du corps qui se déploie et qui permet aussi cette navigation dans des imaginaires parfois peut-être inattendus et qui laisse aussi la place aux spectateurs et spectatrices de naviguer avec leurs propres imaginaires,
oui,
et leurs propres références.
Chacun peut interpréter, c'est aussi ça la poésie, quoi, d'une certaine façon. Hein. En tout cas, moi j'ai trouvé, donc du coup je me permets de parler de moi, puisque je suis un spectateur lambda dans la salle du Théâtre de la Bastille quand je vais vous voir. Je trouve qu'il y a un vrai côté animal dans les mouvements, qui est renforcé en plus par la transpiration, la sueur que vous dégagez, parce qu'il y a une sacrée énergie, hein, qui ne vient pas seulement des cheveux, mais aussi peut-être par votre respiration. À ce moment-là du spectacle, j'ai même entendu une petite fille ou un petit garçon rire aux éclats. C'était très intéressant, justement, vous parliez de la réaction du public. Alors, on se dit que vous respirez, mais il y a aussi une forme de résurgence et presque parfois de régurgitation à un certain moment. Mami Wata, elle expulse quelque chose, Betty Chomanga?
Je ne sais pas si c'est Mami Wata ou... En tout cas, oui, il y a cette... c'est aussi un jeu entre... qu'est-ce qui sort, qu'est-ce qui peut sortir, qu'est-ce qu'on n'a pas envie aussi de voir, qu'est-ce qui peut déranger. Et en même temps, c'est toujours pour moi assez... Il y a toujours une forme de jeu que j'ai envie de garder dans ce moment-là, notamment.
Mais parce qu'on se demande si c'est une forme de libération, si elle est dans la souffrance, si au contraire, il y a quelque chose qui veut sortir, mais qu'elle ne veut pas laisser sortir. On est toujours sur la ligne de crête, quoi, entre l'ouverture de la porte et la fermeture.
Oui, et c'est important pour moi de ne pas donner une résolution claire. Je pense que j'aime que ça oscille et que ça navigue et qu'on ne sache pas très très bien
Et d'un spectacle à l'autre, ça oscille d'une façon parfois différente, peut-être aussi de la façon dont vous sentez les réactions du public, parce que vous êtes très très proche, hein, du public du premier rang.
Oui, alors j'ai une ligne d'écriture qui est assez tenue, assez claire, mais dans laquelle en effet il y a de l'espace pour ce rapport-là avec le public qui est toujours différent, qui est toujours renouvelé et qui est toujours la donnée inconnue, mais dans tout spectacle, et que j'aime pouvoir avoir aussi comme matière et qui fait évoluer la pièce elle-même.
Alors ça, c'est intéressant parce que hier, donc encore une fois, quand je suis venu vous voir, j'étais au troisième ou quatrième rang à peu près, donc je voyais évidemment assez bien ce que vous faisiez avec les personnes du premier rang ou du deuxième ou du troisième rang, parce que vous montez un petit peu dans les travées. Et donc, il y a tout un jeu entre vos mains et les mains du spectateur ou de la spectatrice que vous allez voir. Et ce qui m'a frappé, c'est que, sauf erreur de ma part, aucun spectateur ou aucune spectatrice n'a osé vous toucher.
Oui.
Est-ce que ça vous a surpris? Est-ce que vous avez apprécié? S'il vous touchait, le spectateur, ça vous aurait... Vous auriez réagi comment?
En fait, j'ai créé cette pièce il y a déjà 4 ans et je l'ai créée juste avant le premier Covid. Et initialement, dans cette pièce, je donnais réellement la main au public. Donc, j'invitais vraiment les gens à me donner la main et les gens me donnaient la main. Et puis il y a le Covid qui est passé par là et ce geste est devenu un geste compliqué. Et j'ai fait évoluer la pièce et puis petit à petit j'ai cherché à comment trouver un contact qui passe justement, qui fasse exister cette possibilité-impossibilité et cette tension qui existe entre est-ce qu'on va toucher ou pas.
Il y a une dimension magnétique.
Donc aujourd'hui, presque je préfère cette tension qui est là sans forcément toujours aller jusqu'à toucher. Mais je joue vraiment de ça. Donc, c'est assez rare que je laisse quelqu'un me toucher la main maintenant, oui. Mais ça peut arriver.
D'accord,
ça
donc,
dépend
donc,
de.
S'il y a des auditeurs là qui vous voient d'ici la fin de ce week-end, ils ont le droit éventuellement.
Ils ont le droit.
Bon, voilà, parce qu'il faut toujours se méfier de Mamie Wata. Attention. Hein. Bon, alors, vous parliez tout à l'heure, Betty Chomanga, de votre corps coupé en deux. Alors, c'est vrai que ce qui frappe aussi, c'est que vous avez du maquillage noir sur le haut du corps et pas du tout sur le ventre, sur les bras. Sur le cou aussi, et pas du tout sur le bas, donc vous êtes en short, en jean, hein, mais vos jambes n'ont pas de maquillage. Ambivalence, pourquoi justement opposer le haut et le bas?
Alors, quand j'ai travaillé pour cette pièce, j'ai fait aussi pas mal de recherches. Donc la pièce s'appelle Mascarade, et Mascarade, ça renvoie au masque, mais ça renvoie aussi au carnaval. Et il y avait dans ma collecte d'images qui m'ont servi pour écrire ce spectacle, il y avait pas mal d'images qui venaient notamment du carnaval haïtien. Et dans ce carnaval-là, il y a des figures qui viennent du fond des océans et qui sont grimées en noir complètement, peintes en noir, et qui aussi renvoient aux anciens esclaves. Et il y avait notamment une photo d'une photographe qui s'appelle Phyllis Galembo, qui s'appelle Boy at Beach. Il y avait un jeune garçon comme ça qui était peint en noir avec un short en jean et un t-shirt. Et c'est comme ça que j'ai petit à petit tissé cette idée de costume-là, à la fois dans cette référence à la profondeur des océans. Et en même temps, ce qui était important pour moi, donc je suis une femme métisse, je suis française, d'un père camerounais et d'une mère française. Et je pense qu'il y avait cette, par rapport à Mamie Wata, qui est aussi une figure mélangée, hybride aussi de par ces mélanges de représentations. Je pense que c'était aussi pour ça que j'ai eu envie de m'intéresser à cette figure. Et donc, quelque part, dans ce costume, de travailler sur cette dichotomie-là entre une partie du corps qui est noire et puis le reste qui est blanc, marron, on ne sait pas très bien la couleur, mais en tout cas, voilà. Et c'était un petit peu dans cette intention-là.
Me, shake your
Alors on comprend pas tout avec la musique, en plus je suis pas un dingue de l'anglais, je vous cache pas, mais je suis au manga, mais on arrive quand même à choper quelques mots. Et c'est vrai que ce côté on comprend pas tout, ça renforce aussi le côté ambivalent, quoi, justement. Donc cette communication qui n'est pas parfaite, loin s'en faut, entre votre personnage et le public. Il y a aussi des moments où on entend dans votre bouche sortir des mots français. Quelle place avez-vous voulu donner aux mots, à la parole, au verbe dans ce spectacle?
Ça a été une question pendant longtemps de comment quelque chose, peut-être un discours, allait finir par sortir de cette pièce.
Il fallait des mots.
Je pense que j'ai un rapport aux mots qui est assez fort. Et souvent, quand je construis une pièce, il y a des images qui m'accompagnent, mais il y a aussi des mots, soit par des lectures que je fais ou parfois de la poésie aussi. Et là, il y avait deux textes à partir desquels j'ai travaillé. Ce qu'on vient d'entendre, c'est un texte de Lydia Lunch, qui est une chanteuse, performeuse américaine, qui avait écrit ce texte quand elle avait 25 ans et qui s'appelle Fuck, et où en fait elle insulte les gens qui sont venus la voir, et c'est toute une métaphore qu'elle fait autour du sang, du sexe et de la viande. Et voilà, et j'ai pas eu les droits pour utiliser ce texte. Donc
d'accord.
Du coup, je l'ai travaillé dans d'une autre manière, comme une matière. En fait, on ne le reconnaît pas. Et il est présent comme aspiré à l'intérieur du texte.
Voilà, ce qui correspond effectivement.
Et puis le texte qu'on entend en français, où d'un coup là, les mots peuvent sortir, c'est un texte de Cazet, qui est donc une rappeuse française. Qui, elle, m'a autorisée à pouvoir interpréter un morceau de ce chant qui s'appelle « Libérer la bête », et où il y avait quelque chose... cette musique m'a beaucoup accompagnée pendant le processus de travail, et puis c'est comme si elle arrivait à mettre des mots sur ce qui se jouait pour moi dans cette pièce.
Merci beaucoup, Betty Chomanga. Merci d'être venue libérer la bête, ou une partie de la bête en vous, dans VMDN sur RFI, Mascarade au Théâtre de la Bastille jusqu'au 26 mars.
Chargée de sable, elle roule à contre-courant. La ville est calme, le nuage est rouge. Ce matin à ses goûts, personne ne bouge. Ils sont passés où? Tous les gens de ses goûts sont passés où? Tous les gens de ses goûts. Elle dépasse enfin le pont de Marcala. Le regard dans l'eau, mais aucune barque est là. Pas même un caïman, ni la moindre vague. Le Niger endormi paraît tristement calme. Il s'est passé quoi à Marcala? C'est passé quoi à Marcala? Quand elle atteint le grand marché de Mopti, le ventre froid et la bouche sans appétit, Mami Wata se noie dans ses propres larmes. La place est vide, le pêcheur a rendu l'âme. Il est parti, le pêcheur de Mopti. Il est parti, le pêcheur de Mopti. Mami Wata, elle pleure. Mami Wata a le cœur fragile comme les fleurs. Mami Wata, elle crie chaque fois que le sang coule sur la berge du fleuve. Mami Wata, elle pleure. Mami Wata a le cœur fragile comme les fleurs.
Mami Wata, El Gato Negro et Pat Kala, un titre de la playlist RFI de ce mois de mars.
Un café gourmand, s'il vous plaît. Un café gourmand.
Le café gourmand, vous m'en direz des nouvelles.
Avec nous cette semaine, Isabelle Chenu, Solène Gardré et Lisa Giroldini. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour. Bonjour Jean-François.
Solène, vous êtes allée voir l'exposition d'un peintre béninois à Paris.
Oui, il s'appelle Raffi Okefolahan, il est exposé en ce moment dans le festival Afrique Capitale et il peint notamment sur son pays et ses couleurs, le Bénin.
Et puis avec vous Lisa, on va partir à la rencontre de Monsieur Mala.
Oui, Monsieur Mala, ce n'est pas une seule personne mais 5 musiciens, un quintet de jazz, mais pas que, qui sort son premier album aujourd'hui.
Et pour commencer, on part à la bibliothèque. Et pas n'importe quelle bibliothèque, la BNF, à la Bibliothèque Nationale de France, qui consacre Isabelle une grande exposition photographique à la France et aux Français au sortir de la crise sanitaire qu'on évoquait tout à l'heure avec Betty Chomanga. 450 photos sont présentées issues de la grande commande lancée à 200 photographes de presse par le ministère de la Culture afin d'établir un panorama de la France des années 2020. L'exposition s'intitule « La France sous leurs yeux ».
Oui, cette commande publique photographique est exceptionnelle, c'est la plus grande jamais menée en Europe. Comment va la France? À quoi ressemble-t-elle au tournant des années 2020? 200 photojournalistes lauréats, âgés de 22 à 82 ans, sont partis sur toutes les routes pour ausculter notre relation au travail, à l'écologie, à la culture, à l'école, aux soins, à la spiritualité.
Et c'est une France en fait en clair-obscur qui se dessine sur les 450 tirages que propose cette exposition, souvent des portraits, des centaines de visages et des corps jeunes ou vieux.
Une France ouverte, Jean-François, mais tentée par le repli, connectée et fragmentée, égalitaire et inégale, marquée par une économie et des paysages nouveaux. Le budget de cette commande photographique, c'est 5,5 millions d'euros. C'est énorme. Les photographes lauréats ont eu 7 mois pour produire leur sujet. Au final, ce sont 2000 tirages inédits qui vont intégrer les collections de la BNF, la Bibliothèque Nationale de France, qui conserve une des plus grandes collections de photographies au monde.
Oui, on s'en souvient tous, hein, l'après-Covid a provoqué de grands chambardements intimes et des envies de changement de vie parfois radicales.
Oui, par exemple, la photographe Alexa Brunet, qui vit en Ardèche depuis une quinzaine d'années, est allée arpenter l'Aveyron, le Cantal, la Drôme, la Loire pour rencontrer des gens qui, de longue date ou plus récemment, ont fait le choix de s'extraire de la société et de vivre autrement.
Le but étant d'avoir le moins d'impact possible sur la planète. La plupart n'ont pas de voiture, ils ont des panneaux solaires, ils font effectivement pousser le maximum de choses qu'ils peuvent manger eux-mêmes. Il y en a beaucoup qui sont végétariens, mais il y en a qui chassent aussi. Ils visent l'autonomie alimentaire. Ce n'est pas toujours possible, mais il y a aussi ce besoin d'arriver à assumer ses propres besoins, que ce soit alimentaire ou énergétique, d'aller couper du bois et de se rendre compte de l'effort que ça représente de pouvoir se chauffer soi-même. Pareil, au niveau des enfants, la plupart font l'école à la maison, puisqu'ils sont aussi en rejet du système éducatif actuel, et ils veulent que leurs enfants soient un peu des enfants sauvages, en quelque sorte, et qu'ils arrivent eux-mêmes à comprendre ce dont ils ont besoin pour grandir et pour apprendre.
Oui, une commande photo qui représente finalement, Isabelle, plein de petites fenêtres sur la France.
Oui, parce qu'après l'Ardèche, on va partir à Mayotte, département français de l'océan Indien. La photographe Laura Hénault poursuit son travail initié il y a 7 ans à la rencontre de bandes de jeunes garçons sans papier. Ils ont entre 8 et 22 ans. Ils survivent par groupe d'une douzaine, entourés de meutes de chiens dans les mangroves. Laura Hénault y voit une forme de marronnage contemporain.
Le marronnage a été la première forme de résistance à l'esclavage, puisqu'on appelait marronnage les esclaves qui s'enfuyaient des plantations, qui partaient mener une vie libre, mais cachée, invisible, souvent dans les hauteurs, dans les forêts, dans les mangroves, dans les ravines. Une forme de résistance qu'on retrouve maintenant sous d'autres formes. Et pour moi, c'est ce qu'incarnent ces jeunes aujourd'hui, de par aussi l'histoire de l'archipel, mais de par leur façon aussi de vivre, de survivre, de se déplacer, de se cacher par le fait qu'ils soient aussi chassés. Donc il y a beaucoup de choses qui se rejouent, qui se répètent aussi dans l'histoire à d'autres niveaux.
Le photographe Stéphane Lagoutte a regardé, lui, la communauté congolaise en France qui se rassemble autour de différents cultes.
Pour ce qui est des évangéliques, pour le coup, on est souvent dans des zones industrielles, dans les banlieues, à Sarcelles, différents endroits autour de Paris où je suis allé. Ce sont des hangars et qui, en fait, le dimanche après-midi, revêtent une forme de vie. On y fait des barbecues, on s'y rassemble, on prie. Et en fait, ces non-lieux, qu'on appelle des non-lieux ou des lieux de passage, deviennent des lieux habités, en quelque sorte, à ce moment-là. Donc ça, c'était intéressant. Mais quand on est avec les catholiques dans l'église Saint-Bernard, on est dans une église en pierre, donc c'est un tout autre décorum. Et quand on est avec les Ngunza, par exemple, c'est une petite salle louée du côté de la porte de la chapelle, donc c'est une petite salle très fermée. Et en même temps, la manière de mener le rite n'est pas du tout la même. Donc là, ils jouent de la musique, ils sont plutôt en couleur rouge, alors que les Kibangis sont en vert, par exemple. Et il y a des séances de désenvoûtement, en quelque sorte, il y a des séances de guérison. Ça, c'est quelque chose qui est assez récurrent, qu'on voit aussi chez les évangéliques en fin de session souvent. Puis il y a à travers tout ça, de mon côté quand même, la volonté de dire que la France c'est ça aussi, tout simplement.
Voilà, quant au projet de Stéphane Gladieux, il s'appelle Littoral. Isabelle, on change complètement là d'ambiance, c'est une série en fait sur les grandes vacances.
Oui, ah, les célèbres, vous savez, congés payés français.
On commence à y penser
français.
Un petit peu.
Le photographe a fait 11 000 km et s'est arrêté dans 55 stations balnéaires françaises à la rencontre des Français en vacances.
Les vacances sont vraiment la saison des apparences. On va véritablement quelque part s'habiller, se théâtraliser, se mettre en scène dans nos propres vacances jusqu'à devenir finalement une caricature de nous-mêmes, ou je préfère dire un archétype, que je trouve très touchant. Donc c'est vrai que j'ai choisi des gens dont l'apparence était assez marquée, assumée, des gens qui racontent quelque chose aussi de leur époque, de leur vie, et qui mettent en scène un petit peu ce moment essentiel dans la vie des Français. Le temps des Français sur une année se divise en deux, disait un sociologue, la préparation des vacances et les vacances elles-mêmes. Mais on en rigole, mais c'est vrai qu'il y a vraiment ça. C'est les congés payés, premier droit social français. C'est quand même extrêmement représentatif et unique en son genre.
Stéphane Gladieux, à votre micro, Isabelle, vous préparez vos vacances
Évidemment, comme tous les Français.
Voilà, donc vous êtes déjà un petit peu en vacances, c'est bien ce qu'il a dit. La France sous leurs yeux, c'est donc à voir à la BNF jusqu'au 23 juin. Et vous me précisiez qu'au-delà de cette exposition collective, les reportages photos présentés dans de nombreux lieux en région métropolitaine et Outre-mer valent également le détour. Merci. Du 13e arrondissement de Paris, on part dans le 18e avec vous Solène. Le festival Afrique Capitale se tient jusqu'à la fin du mois de mars dans le quartier multiculturel de la Goutte d'Or, donc on est dans la partie nord de Paris. Cette année, il met en lumière Cotonou, la capitale du Bénin, et on peut y découvrir le travail de 30 artistes béninois, des concerts, des spectacles, des expositions. Et vous vous êtes intéressée, Solène, aux peintures de Rafi Okefolahan.
Oui, alors on va bien parler de peinture, hein, même si on commence cette chronique par une musique du Nigérian Fela Kuti, peut-être vous l'aviez reconnu.
Oui, car je crois que Lisa
Suite hoché la tête. Car c'est sur elle, entre autres, que peint Rafi Okefolahan. Ce Béninois de 45 ans vit entre Paris et Porto Novo, où il est né. C'est la plus belle ville du monde, selon lui. Et pour Afrique Capitale, il a donc réalisé 6 œuvres, une installation et 5 peintures. Des œuvres avec beaucoup de couleurs, très vives, du rouge, du jaune, des mélanges de matières. Sur la toile, on peut voir des hommes et des femmes dans un trait pas très réaliste, assez brut, là aussi avec plein de couleurs. Alors, avec cette description, c'est un peu compliqué cependant de deviner le thème de l'expo. Eh bien, il s'agit du vaudou béninois.
Eh ben voilà, on en parlait
encore une fois. On est logique dans cette émission.
Oui, le vaudou très présent dans cette émission.
Cette série se base même sur une histoire particulière qu'a vécue personnellement le peintre, celle de sa rencontre avec une déesse vaudou quand il avait 8 ans.
Cette divinité s'appelle Chinan et cette divinité sert à purifier. C'est une divinité bienveillante qui traverse la ville, qui nettoie la ville de tout ce qui est impureté, de tout ce qui est maladie et tout. Et moi, j'avais croisé cette divinité quand j'étais plus jeune, mais je n'avais pas l'explication. Mais notre rencontre m'a traumatisé.
Alors pourquoi traumatisé? Car en fait, il ne rencontre pas la déesse directement. Il rencontre ses adeptes, des hommes et des femmes qui sont en train de la célébrer via des rituels vaudous. Et ces gens portent des sacs et objets lourds. Ils chantent, dansent et sont même en transe. Et quand il les croise, il le pourchasse jusqu'à chez lui en lui jetant de l'eau dessus. Donc voilà, c'est sûr qu'à 8 ans et même plus grand, ça peut faire un peu peur. Mais il aura finalement l'explication à 40 ans alors qu'il raconte cette histoire à des amis béninois. Il lui explique que c'était en fait des gens qui célébraient la déesse de la purification et qui voulaient le purifier car il avait au-dessus de lui un esprit malveillant. C'était donc un rituel de purification.
J'ai trouvé cette histoire magnifique et j'ai pensé à cela quand le Covid est arrivé en fait. Je me suis dit pourquoi pas ne pas faire appel à ces porteurs de charge pour purifier la ville de tout ce qui est maladie, pour faire en sorte que nous soyons loin du Covid et que nous retrouvons notre joie de vivre. Après le Covid, je me suis mis à peindre ces fidèles-là avec leurs charges. Donc on voit des hommes qui portent des charges sur les épaules et ils sont habillés, ils sont en transe, ils sont en couleur, en sueur, ils sont en sang, ils sont... voilà.
Cette musique solenne, c'est une musique que l'on entend lors d'une cérémonie vaudou au Bénin.
Oui, des chants et des danses lors d'une cérémonie pour honorer la déesse de la purification, justement. Les adeptes, comme ceux rencontrés par Rafi Okefolaon, s'appellent des porteurs de charges, comme vous venez de l'entendre, car parmi les rituels, ils portent donc des charges lourdes. Et le nom de l'exposition d'Afrique Capitale, eh bien, c'est porteurs de charges, porteurs de rêves. Rafi Okefolaon voulait là aussi, comme dans la majorité de son travail, faire connaître le Bénin et sa culture. Et le vaudou, justement, est au cœur de cette culture.
Il faut qu'on arrive à expliquer le vaudou. Parce que quand les gens ils entendent le vaudou, ils pensent que c'est des poupées qu'on doit piquer avec des aiguilles, alors que le vaudou, c'est au-delà de tout ça. L'histoire des poupées piquées avec les aiguilles, ça, c'est Haïti. Et c'est Hollywood qui a créé cela pour pouvoir aussi vendre un projet, un produit, une fiction. Mais ici, au Bénin, le vaudou, c'est au-delà de tout ça, en fait. C'est une pratique, c'est une culture, c'est une religion, c'est une manière de vivre. C'est une manière de faire, c'est une préservation de la nature, de la faune et de la flore.
Tous ces sujets sont aussi politiques. Rafi Okefolaon met en relation la culture béninoise et donc souvent le vaudou avec des sujets d'actualité. Il le disait tout à l'heure, ce qui l'a inspiré pour cette série, c'est la pandémie de Covid-19.
Ces porteurs de charge, leur rôle c'était déjà de purifier la ville, c'était de se débarrasser la ville de toutes ces impuretés et tout ça. Ils avaient développé ce système pour le faire, mais avec le temps... On a mis toutes ces pratiques dans un coin et on ne le pratiquait pas.
Dans Porteurs de charges, Porteurs de rêves, on voit donc des gens qui font les rituels de purification du Covid ou comment les valeurs et traditions du vaudou béninois peuvent aider dans une actualité difficile. Et ce n'est pas que symbolique, Rafi Okefolaon.
Au Bénin, le confinement existait depuis très longtemps. Les gens, on découvre le confinement en Europe. Non, il y a des cérémonies qui se font à des périodes données de l'année où tout un village est confiné pendant... un mois, parce que ça, ils avaient imaginé cela pour empêcher la propagation des épidémies.
Oui, en plus d'avoir ces sujets de cœur, le travail de Rafi Okefolaon est aussi marqué par un style de peinture singulier.
Oui, il est connu notamment pour son utilisation des couleurs. Je vous parlais tout à l'heure de rouge, de jaune. Les décors abstraits de ses toiles, comme ses personnages, sont faits de dizaines de tons différents. Mais ce n'est pas n'importe quelle palette de couleurs.
C'est les couleurs du Bénin, c'est les couleurs des murs du Bénin, de Porto Nouveau, c'est la terre rouge de Porto Nouveau. C'est ce que tu vois les gens porter, c'est ce que tu vois pendant les cérémonies, les gens y mettent dans leurs costumes. C'est des couleurs qui viennent de la pratique des cérémonies, des rituels vaudou. Pendant ces cérémonies, il y a des libations qui vont être faites. Et ces libations, ces sacrifices, ça se fait sur des autels de divinités. Et on va appliquer de la matière. Quand vous voyez tout ce mélange de matière, on peut apercevoir plusieurs couches de couleurs. Et donc moi, c'est dans ça que j'ai développé ma technique, ma palette de couleurs en fait. Je voyais le rouge, je voyais ce jaune soleil éclatant, je voyais ce blanc. Donc au début, j'ai une palette composée que des couleurs primaires. Et puis au fur et à mesure de mes rencontres, de mes voyages, mes couleurs se sont agrandies.
Voilà donc toujours le vaudou et ses toiles, il peut les faire en un jour ou en deux ans, m'a-t-il raconté. Celles-là ont été faites cette année, spécialement pour l'expo. On voit aussi une installation en raffia dont je vous laisserai la surprise.
Oula.
Pour découvrir l'expo. Alors on va pas tout raconter quand même, beaucoup décrit.
Bon, on y va ce week-end.
Voilà, il y a jusqu'au 31 mars pour découvrir l'expo. Rendez-vous donc au Lavoir Moderne dans le 18e arrondissement de Paris.
Voilà, dans le quartier de la Goutte d'Or, on écoute RFI sur 89 FM. Merci Solène. Little Ones, l'un des titres du premier album du quintet de jazz Monsieur Mala, quintet que vous avez donc rencontré, Lisa.
Oui, Jean-François, Monsieur Mala, qui sort aujourd'hui son album éponyme. Sur la pochette du disque, on peut voir une espèce de coque de bateau avec des jambes, plusieurs objets et des instruments de musique entremêlés dessus. Moitié humaine, moitié machine, c'est l'une des versions de Monsieur Mala. Un nom de scène comme une entité qui canalise les cinq identités des musiciens. Robin Antunes au violon et à la mandoline.
Un des premiers concerts qu'on a fait, on avait tous quasiment le même collier, un espèce de collier tibétain avec des perles, qui s'appelle un mala en fait. Ça collait bien avec l'idée qu'on avait de méditation, de connexion, vu qu'on fait de la musique orale, et donc il y a une grande part d'improvisation, puisqu'on vient du jazz aussi. Et en fait, on a rajouté Monsieur devant, parce que ça personnifiait un peu ce projet. Ça nous rassemble autour de ce personnage qui a pas forcément de visage défini, ni d'identité très définie en fait. Et puis c'était aussi un moyen de le faire grandir, le mala, qui devenait monsieur quoi.
Entre les différents musiciens, c'est une histoire qui dure. Certains sont amis depuis le collège, d'autres depuis un groupe de funk à l'adolescence. En 2018, plusieurs des musiciens sont réunis par hasard autour de la basse d'Étienne Bappé pour des remplacements pendant un concert au Baiser Salé à Paris. Son fils Swahili est dans le public et c'est en les voyant ensemble sur scène que c'est l'évidence. À la fin du concert, il leur propose de partir en résidence et c'est la naissance de Monsieur Mala.
Donc on a donc Swahili Mbappé à la basse, mm-hmm. Robin Antunes au violon. Il en manque encore quelques-uns, là.
C'est ça,
pour
oui.
Faire on un
a... C'est ça. On a aussi Balthazar Naturel au saxophone, au cor anglais, à la clarinette et à la flûte, Nicolas Vella au clavier et Johan Dani à la batterie. Guadeloupe, Italie, Portugal, tous les musiciens viennent d'horizons différents. Et chacun met un peu de soi dans cette musique métissée aux influences multiples. Le bassiste Swahili Mbappé.
Il y a beaucoup d'influences qui sont pas forcément jazz. Après, qu'est-ce qui est du jazz, qu'est-ce qui en est pas, c'est un peu la question à 8 millions. On est vachement inspiré des musiques qui sont qualifiées d'urbaines, par exemple, qui font partie de nos générations. Enfin, on a tous grandi en écoutant ces musiques-là. Très inspiré aussi par les musiques un peu du monde. On est tous d'origines diverses. Moi, par exemple, je suis originaire du Cameroun. Donc, c'est vrai que la musique africaine et camerounaise, plus particulièrement, fait partie de mon vocabulaire, en gros. Ça crée des sonorités, forcément, vu qu'on mélange nos idées à tous les cinq. Ça crée un mélange qu'on pense être un petit peu inédit.
Ce mélange de culture musicale, de manière de créer, il se ressent vraiment à l'écoute de l'album. Et pendant la création, rien n'est figé, tout circule. Les membres de Monsieur Mala s'écoutent et s'amusent.
On essaie de fonctionner un peu comme un groupe de rock. On a pris le choix de ne pas venir avec des partitions, avec des parties écrites pour tout le monde. Soit quelqu'un vient avec une idée, ça peut être un morceau plus ou moins terminé, avec un thème défini, avec une harmonie définie. On le soumet à Monsieur Mala, et Monsieur Mala fait un peu sa magie. Monsieur Mala, il peut complètement le détruire, il peut le prendre, il modèle sa matière, et il en sort quelque chose d'autre. L'autre processus, c'est de venir avec juste une idée. Ça peut être juste un riff, ça peut être juste un bout de thème. Et après, on y travaille ensemble, on voit ce que ça sort. Et le troisième processus, c'est de travailler de A à Z directement sur une nouvelle idée.
Tout ce que vient de dire Nicolas, c'est ce qui est raconté dans cet album, justement. C'est tout ce process. Donc si vous voulez comprendre, il faut aller l'écouter.
Et au fil de l'album, on découvre la personnalité musicale de chacun des membres de Monsieur Mala, Lisa, notamment grâce à la place qui est laissée au solo et à l'improvisation.
Oui, les morceaux ont été composés de manière assez cadrée. Les musiciens ont respecté toutes les étapes de composition, d'arrangement et de pré-production avant d'aller en studio. Mais ils laissent toujours une place à l'improvisation, aussi pour mettre en valeur l'un d'entre eux. Dans les moments en trio jazz, clavier, basse, batterie, c'est par exemple l'occasion de solo de clavier joué par Nicolas Vella.
Quand on se dit on se définit jazz ou pas jazz, etc., etc., c'est cette ouverture d'esprit de laisser la place à la vie. Tout peut se passer et il faut juste qu'on soit réceptif et ouvert d'esprit à se dire on y va tous ensemble, on se suit, donc on accepte ça.
Cette improvisation a une place hyper importante pour nous dans le live et surtout de trouver cette symbiose qui est un peu, à mon sens, en tant que musicien de jazz, le graal à atteindre, justement, cette espèce d'état un peu second où en fait on n'est plus dans la maîtrise mais on est juste dans l'instant et il peut se passer tout et n'importe quoi, et en général ça crée des moments de grâce qui sont assez beaux, quoi.
Atteindre ces moments de grâce, les musiciens se dévoilent, les 11 titres sont tous très personnels, me disiez-vous Lisa, à propos d'expériences de vie marquantes ou de bouleversements intimes.
Oui, ici on a accès à une véritable mise à nu émotionnelle de leur part. Robin Antunes apporte un morceau en arabe après un voyage au Liban. Il se livre sur un autre en portugais, dédié à sa grand-mère. Nicolas Vella nous parle de sa fille et d'accueillir sa naissance sans peur, avec le titre Senza Paura qu'on entend actuellement. Et Swalim Bappé rend hommage au Douala, la langue de son père camerounais, avec ce morceau Nguinha Mulema.
Nguinha Mulema, ça veut dire la force du cœur. C'est un morceau qui a pris sens à un moment où je vivais un changement de vie un peu intense à négocier. Et en fait, il y a un adage en Douala qui est beaucoup dit, qui dit Nguinha Mulema et Buki Bwanga, ça veut dire la force du cœur est plus forte que le médicament. C'est juste une histoire de se donner du courage en fait pour faire face à certaines choses, certains changements ou certains projets. Et voilà.
On a plusieurs featuring également sur cet album avec le capverdien Euclidge et la rappeuse russo-espagnole Anna Kova. Vous l'aurez compris, cet album n'est pas un conte, mais c'est tout le livre de contes. Monsieur Malas se promène de morceau en morceau grâce aux 5 rouages de cette fabrique, 5 univers qui fusionnent.
Monsieur Malas, le premier album donc de ce quintet de jazz sort aujourd'hui et le groupe est à retrouver en concert le 25 avril au New Morning à Paris, le 23 mai au Festival Jazz à Ajaccio en Corse, ou encore le 28 juin au Payon Jazz Festival près de Nice, sur la Côte d'Azur, donc toujours dans le sud de la France.
Ainsi se termine le Café Gourmand de VMDN. Merci Elisa, merci Solène, merci Isabelle, merci évidemment à vous qui nous écoutez. Dans un instant, le journal en français facile sur RFI. Lundi, Marjorie Bertin a ce même micro pour une émission autour de la préservation du patrimoine en zone de conflit. Et vous m'en direz des nouvelles.